La vérité vous rendra libre, une émission proposée par Jacques Canredon.
Bonjour Alexandre, nous reprenons pour ce beau mois de décembre les chroniques en cours et je vais suspendre pour la chronique de ce mois l'examen des mauvaises doctrines qui s'opposent à la vérité. Parce que nous sommes dans la période de l'Avent où nous attendons la belle fête de Noël, qui est la fête de l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et que nous venons de passer la belle fête aussi de l'Immaculée Conception, qui concerne sa Sainte Mère, la Vierge Marie. Souvent, on ne comprend pas très bien ou on n'a pas une notion très claire de ce qu'est le dogme de l'Immaculée Conception. Ce dogme a été proclamé par le pape Bienheureux Pie IX le 8 décembre 1854. J'expliquerai de quelle manière il a été proclamé parce que la façon dont la proclamation s'est faite mérite véritablement le récit. L'Immaculée Conception de la Sainte Vierge consiste en ceci qu'elle fut exonérée du péché originel. C'est la seule créature de Dieu qui ne fut pas affectée par le péché originel. Pourquoi ? Parce que de toute éternité, Dieu le Père avait prévu que son Fils s'incarnerait pour sauver l'humanité et qu'il allait s'incarner en devenant homme comme tous les hommes dans le sein d'une femme. Cette femme devait donc être préservée de toute souillure car Dieu, qui est innocent de tout mal, ne supporte aucun mal, aucune souillure, aucun péché. Dieu est innocent de tout mal, indemne de tout mal. Et donc il fallait que sa Sainte Mère, qui devait porter la deuxième personne de la Trinité, qui est d'une souveraineté, d'une pureté, d'une immensité, d'une infinité totale, comme Dieu le Père et comme le Saint-Esprit, soit protégée du mal. Voilà pourquoi la Sainte Vierge, dont Dieu le Père prévoyait qu'elle accepterait, parce que Dieu sait tout de l'avenir, qu'elle accepterait la mission que lui confiait l'ange Gabriel, l'a préservée du péché originel. C'est ce qu'on appelle le dogme de l'Immaculée Conception. Elle fut, dès sa conception, immaculée, blanche, de tout péché. Le péché originel, on n'y croit plus guère de nos jours. Et pourtant, sans le péché originel, le mal qu'il y a dans le monde, sous la forme du péché lui-même, qui est le plus grand de tous les maux, mais sous la forme de la souffrance, de la maladie, des catastrophes naturelles, des guerres, des oppressions, de la pauvreté. Tout ce mal, cette somme immense de mal qui existe dans le monde, dans l'univers, est inexplicable et absurde si on ne croit pas à l'existence du péché originel. Car c'est le péché originel qui a blessé la nature, qui a cassé en quelque sorte l'ordre que Dieu lui avait imprimé au moment de la création, puisque dans la Genèse il est dit à chaque phase de sa création, à chaque phase de la création, Dieu dit et il vit que cela était bon. Oui, la création de Dieu est bonne, mais l'homme l'a perturbée par le péché, en cédant à la suggestion du démon. Et donc, sans le péché originel, le mal est inexplicable, il est absurde et surtout il est inutile. Alors on se donne de mauvaises raisons pour rejeter la croyance au péché originel. C'est une fable, comment peut-on croire que parce qu'un homme et une femme ont mangé une pomme, le péché est entré dans le monde et a totalement perturbé l'univers. D'abord, la Genèse ne parle pas de pomme. Il n'a jamais été question d'une pomme. Il est dit « le fruit de tel arbre ». Et il est bien indiqué « l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Donc il ne s'agit pas d'une fable, mais il s'agit réellement d'une allégorie du paradis terrestre où l'homme et la femme ont fait un choix sur la suggestion du démon qui perturbait l'univers parce que ce choix était interdit par Dieu. Alors on a prétendu aussi que le péché originel avait été inventé par saint Augustin, au IVe siècle. Donc vous voyez, on ne peut pas faire remonter ça à la révélation divine. Mais c'est vrai que saint Augustin a beaucoup parlé du péché originel, quand il a combattu en particulier l'hérésie qui niait le péché originel, et s'il a ferraillé pour défendre et préciser ce qu'il fallait entendre par péché originel, contre Pélage, ce moine qui avait inventé cette hérésie selon laquelle le péché originel n'existait pas et qu'on n'avait pas besoin du baptême et que la nature humaine suffisait au salut, et saint Augustin a combattu tout cela. Car cette vision optimiste de Pélage, de la nature humaine, indiquait que, avec nos seules forces, nous pouvions acquérir le salut et accomplir des bonnes œuvres. Et par voie de conséquence, cette hérésie, évidemment, rendait inutile le baptême et la grâce. Alors, il a, saint Augustin, clarifié le contenu de ce péché, qui est à la fois une peine et une faute. Il est une peine parce qu'il y a eu la faute. D'ailleurs, le fait que les Pélagiens niaient ce péché prouve assez qu'il était cru, on le croyait, on savait son existence avant saint Augustin lui-même. Il n'a donc pas fabriqué ce dogme pour les besoins de la polémique théologique et la défense de la foi. Car outre la Genèse où l'événement fondateur de ce péché est narré, la chute d'Adam et Ève, ce péché est présent de manière éparse dans tout l'Ancien Testament sous forme d'allusion. Mais c'est l'apôtre saint Paul qui va le formuler d'une façon catégorique en précisant la foi en l'existence de ce péché sans lequel la rédemption n'aurait aucun sens. Écoutons-le dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Chapitre 5, verset 12. « Ainsi donc, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, puisque la mort est la conséquence du péché. Et ainsi la mort a passé dans tous les hommes, parce que tous ont péché, dit saint Paul. Cependant, dit-il dans le verset 14, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Et il n'est pas de don comme des suites du péché d'un seul, car le jugement a été porté à cause d'une seule faute pour la condamnation, tandis que le don amène la justification de beaucoup de fautes. En effet, si par la faute d'un seul, la mort a régné par ce seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. De même, en effet, que par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été constitués pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, tous seront constitués justes. Si l'insistance répétitive qui est proche de la scansion, il scande saint Paul, la faute, le péché, la mort, il scande cela. C'est une construction littéraire magnifique qui porte un nom en rhétorique des panalepses. Il veut lui conférer une puissance de certitude invincible. Par un seul, tous, par un seul, tous, répète-t-il. Si cela n'est pas la définition même du péché originel et de ses conséquences, c'est qu'on ne veut pas voir le soleil à midi. Et qu'on n'accuse pas la croyance au péché originel d'être perverse, injuste ou contraire à la miséricorde de Dieu, puisque c'est par lui, ce péché, que nous est venu le divin rédempteur. Ce qui faisait dire à le grand écrivain anglais Chesterton que la bonne nouvelle de l'évangile consistait en la révélation du péché originel, puisqu'elle nous a valu le rédempteur. Car le rédempteur a élevé par sa venue et son sang, il a élevé la création à un degré de sublimité inégalé, que la deuxième prière de l'offertoire romain exprime d'une façon prodigieuse. Cette prière dit au Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable et l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore. La magnifique formule de saint Augustin. Ô Félix culpa, quae talem, etc., heureuse faute qui a mérité un si grand rédempteur, que l'on chantait le samedi saint, résume et condense cette doctrine de la chute et du relèvement sur un degré infiniment plus élevé de la nature humaine, puisqu'elle est désormais constituée en nous, filios Dei, fils de Dieu, soit plus que les anges. Enfin, pour tordre définitivement le cou à la légende de l'invention par saint Augustin du péché originel, rappelons que le terme de péché originel fut créé par Tertullien, 2 siècles avant l'évêque d'Hippone, saint Augustin, et encore avant lui les pères de l'Église, saint Justin, Origène, saint Cyprien et saint Athanase, traitèrent du péché d'Adam non comme une faute seulement personnelle, mais comme propagée à sa descendance, et qu'on appelait aussi le péché de nature, ce qui dit tout aussi bien que péché originel. Voilà sur le péché originel. La prochaine fois, nous verrons la proclamation de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Et joyeux Noël à tous les auditeurs.
La vérité vous rendra libre, une émission proposée par Jacques Canredon.